Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκή σκληροβάνια.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bonsoir et bienvenue ici à Bruxelles, au carrefour de l'Europe. L'Europe a 50 ans, enfin presque, puisque l'on considère généralement que la construction européenne a débuté le 25 mars 1957, avec la signature par la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne et la France du traité de Rome qui a mis sur les rails la communauté économique européenne, la CEE. Depuis, la CEE est passée de 6 à 9 membres, puis à 12, 15, 25. Aujourd'hui, elle rassemble 27 pays et elle s'appelle l'Union européenne. Problème, cette union est en crise politique depuis le double nom français et néerlandais à la Constitution européenne. Les cérémonies qui vont se dérouler un peu partout en Europe, notamment à Rome et à Paris, serviront-elles de décor à la relance des institutions européennes? Suffiront-elles à créer un nouvel élan européen? C'est le thème de Carrefour de l'Europe cette semaine. Autour des micros de RFI à Bruxelles, Giuseppe Sarcina du Corriere della Sera. Bonjour. Giuseppe.
Bonjour.
Tom Weingartner de la Hessischer Rundfunk, autrement dit la radio de la Hesse, et la capitale de la Hesse c'est Francfort, hein, j'ai pas dit de bêtises, Tom. Oui. Guten Tag.
Bonjour.
Et Thomas Ferenzi du quotidien français Le Monde, qu'on n'a pas besoin de présenter à nos auditeurs. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Giuseppe, le traité de Rome a été signé au Capitole, l'actuelle mairie de Rome, il y a 50 ans, par les ministres des Affaires étrangères des six pays fondateurs, à l'exception notoire du chancelier allemand Adenauer, qui était venu en personne. Alors, les Romains, et plus généralement les Italiens, savent-ils que le texte fondamental de la construction européenne a été signé à Rome, et ils en sont plutôt fiers ou relativement différents?
Je ne sais pas si c'est tout le monde connaît exactement où a été signé les traités de la communauté européenne. Ce que je peux dire, c'est que dans ces jours, en Italie, il y a, je pense, une ambiance très différente par rapport à ce qui s'est passé il y a seulement 3 ans. Donc c'était plus ou moins, c'est-à-dire quand il a été la signature du traité constitutionnel à Rome. Alors là, il y avait plus ou moins, tout le monde avait l'idée que vraiment il était un tournant de l'histoire européen, qui on était en train de bâtir quelque chose d'important. Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on est retombé un peu à l'arrière, donc c'est une célébration un peu muséale, si vous voulez, une idée d'antiquité qui revient, quelque chose un peu comme ça, mais c'est un donné sur lequel il faut réfléchir d'une façon politique d'abord.
On va y revenir. Tom Weingartner, qu'a représenté à l'époque pour les Allemands cette adhésion au traité de Rome?
Pour les Allemands, naturellement, à l'époque, c'était très important de revenir sur la scène internationale, bien sûr, et je pense que ça a porté aussi un enthousiasme pendant plusieurs décennies. Alors, les Allemands étaient toujours à l'avance dans le domaine de la politique européenne. Et encore, à l'époque de l'élargissement, il y a 3 ans, il y avait une certaine euphorie parce que, naturellement, l'Allemagne profite beaucoup de l'élargissement, notamment économiquement. Mais, naturellement, l'enthousiasme est retombé depuis, notamment depuis le processus de la réforme. Maintenant, c'est plus difficile. Alors, le scepticisme monte, je crois.
Thomas Ferenzi, les débuts de l'Europe avec les CE l'ont été sous le sceau de l'économie. Il y a eu pourtant, quelques années auparavant, 2 ans auparavant, une tentative de construction européenne par le biais de la politique. Ça a été la CED, la Communauté européenne de défense. Ça a été un échec cuisant, déjà à cause de la France.
Oui, c'est vrai que ce que nous célébrons ici, c'est la naissance de l'Europe économique. Et le marché commun, ce qu'on appelait à l'époque le marché commun, a été créé après échec d'une tentative d'Europe politique qui était cette communauté européenne de défense qui a beaucoup divisé les Français et qui a échoué. Les Français, la France avait signé et c'est la ratification déjà. qui a échoué pour des tas de raisons, notamment la méfiance qui était encore persistante à l'égard de l'Allemagne, la crainte du réarmement allemand. Et depuis cette époque, l'union politique n'a jamais vraiment pu se faire. Et à quoi on assiste aujourd'hui, me semble-t-il, c'est un nouvel échec de l'union politique. C'est-à-dire, sur le plan économique, l'Europe a progressé, le grand marché a été créé et son origine date bien de 57 et du traité de Rome. Mais lorsqu'il s'agit de franchir le pas pour aller vers une Europe politique, alors là, ça ne marche pas. Et l'échec du traité constitutionnel institutionnelle, en France en tout cas, me semble assez symptomatique de ce refus d'aller au-delà d'une union politique, d'une union économique. Pardon.
Alors les pères de l'Europe, alors on peut citer pour les Français Jean Monnet, Robert Schuman, pour les Allemands évidemment Konrad Adenauer, pour les Italiens Alcide de Gasperi, et on pourrait parler de Paul-Henri Spaak pour les Belges, ils étaient visionnaire. On était quand même au lendemain de la guerre. Il fallait quand même se projeter dans l'avenir pour, au départ, mettre l'acier et le charbon, puis après, ouvrir les frontières. Mais en même temps, ils étaient très pragmatiques. Alors, cet aspect visionnaire et pragmatique, est-ce que c'est pas ce qui manque un peu aujourd'hui à l'Europe? Thomas Ferenczi, je sens que vous avez envie de répondre.
Non, c'est vrai que ces gens avaient à la fois une vision de l'Europe, mais aussi, car il suffit pas d'avoir la vision, il faut aussi savoir la mettre en œuvre. Et ce qui a été le grand mérite de Jean Monnet, ça a été précisément ce talent de négociateur, de conciliateur, de fabricant de consensus. Et en effet, ce sont des choses qui manquent aujourd'hui. Mais enfin, on voit bien quand même, avec l'échec de la CED dont nous parlions précédemment, que les fondateurs ne pouvaient pas tout. Et donc, les limites de cette Union européenne se sont dessinées assez rapidement. Alors aujourd'hui, en effet, je crois qu'il n'y a pas de vision commune de l'avenir entre les 27. Et c'est ce qui est à l'origine de la crise que nous traversons.
Alors, Tom Weingartner, Giuseppe Sartina, si je vous demande quels sont les grands Européens dans vos pays respectifs, est-ce que vous pouvez me répondre quelque chose? Y en a-t-il seulement un dans chacun de vos pays, Tom Weingartner?
Oui, il y a certainement Adenauer qui était...
Ah non, non, mais aujourd'hui.
Bon, il y a toujours Helmut Kohl qui est toujours bien vivant. Je pense qu'il est un grand Européen, bon, qui naturellement n'est plus au pouvoir. Et de ceux qui sont au pouvoir, là, je vois mal quelqu'un du même calibre.
Est-ce qu'Angela Merkel pourrait être cette grande Européenne?
Éventuellement. Bon, de toute façon, elle est plus ou moi, au début de sa carrière au sommet, de toute façon, et on pourrait peut-être juger dans 3, 4, 5 ans, mais bon...
Disons qu'elle est plutôt encourageante.
Elle est engagée, je dirais. Je pense qu'elle est engagée, ça je dirais, mais naturellement, si elle arrive à faire quelque chose, on ne sait pas encore.
Je peux mentionner quatre personnages qui sont à l'affiche aujourd'hui. Giorgio Napolitano, qui a été le président de la Commission d'affaires constitutionnelles à l'Europarlement, à partir du président du Premier ministre Romano Prodi, qui a été déjà le président de la Commission européenne. Je veux mentionner aussi Giuliano Amato, qui a été le vice-président de la Convention pour l'écriture, on peut dire, de la Constitution, du traité constitutionnel. Et enfin, on peut mentionner aussi Emma Bonino, qui était un commissaire, je pense, beaucoup apprécié dans les années 90 en Europe. Mais je pense que, donc, on peut dire qu'il y a un dream team, comme j'ai écouté quelquefois dire, en Europe au moment, mais je pense que ça, c'est pas suffisant, parce qu'il faut aussi avoir une conviction et un mélange, comme tu as dit auparavant, entre pragmatisme et vision de l'Europe, aussi la volonté de prendre quelques risques, que je vois maintenant n'est pas là. Aussi en Italie, où il y a tous les moyens, au terme des ressources humaines, pour chercher d'entamer quelque chose de visionnaire et aussi, comment dire, innovant dans les domaines européens.
Lorsqu'il qui bloque aujourd'hui en Europe, outre bien sûr le non-fonctionnement des institutions, on va y revenir, c'est justement cette absence de vision, c'est le nombre. On est passé de 6 à 27 et vraiment déjà, organiser un tour de table et un tour de prise de parole à 27, c'est déjà très difficile. Ou c'est les égoïsmes nationaux qui reviennent très fort, qui veut répondre Thomas Ferenczi?
Je crois que c'est l'absence d'accord sur ce que doit être l'Europe, sur ce que doit faire l'Europe. Il n'y a pas d'accord sur, par exemple, l'harmonisation fiscale, il n'y a pas d'accord sur l'Europe sociale, il n'y a pas d'accord sur l'Europe de la défense, il n'y a pas d'accord sur la politique étrangère, il n'y a pas d'accord sur beaucoup de choses. Il n'y a pas d'accord sur le fameux projet de gouvernement économique. Tant que les pays ne parviendront pas à se rapprocher sur cette vision de l'Europe, à mon avis, on n'avancera pas.
Tom Weingartner, vous partagez le point de vue de Thomas Ferenczi, on manque de vision.
Pense, oui, on manque de vision, on manque de projets sur lesquels on peut se mettre d'accord, parce que ce qui joue beaucoup, c'est aussi qu'il n'y a plus d'entente entre les Français et les Allemands. Je crois que ça jouait beaucoup dans le passé. Naturellement, le poids des deux pays n'est plus le même par rapport au reste. Bon, c'est naturellement différent d'être deux grands pays dans 12 ou 15 ou dans 27, et encore avec des pays comme la Pologne, etc., qui veulent jouer un grand rôle aussi. Je pense que sans une entente entre ces deux pays, ça va être très, très difficile de relancer des nouveaux projets. Et, bon, alors notamment, par exemple, la discussion que joue la Banque centrale européenne dans la campagne électorale française ne joue pas pour construire des visions européennes, je dirais.
Oui, un grand désaccord entre les Français et les Allemands sur le rôle et la responsabilité de la Banque centrale européenne. On lit parfois que l'Europe, elle est morte en 1973, le jour où la Grande-Bretagne a adhéré. C'est un peu excessif. Qu'en pensez-vous, Giuseppe Sartina?
Je pense que la Grande-Bretagne, ce sont comme les parents d'une grande famille. Vous voyez, dans une famille, on ne peut pas choisir les parents. Il y a un oncle, il y a toujours un oncle, une tante qui ne sait pas toujours, comment dire...
Un peu difficile.
Un peu difficile, voilà, un peu difficile. Alors, je pense que un peu c'est comme ça, la Grande-Bretagne, pour la famille européenne, mais quand même, elle fait partie intégrante de la famille. Donc, je pense que ça, c'est un partenaire incontournable, au moins qu'on décide de faire autre chose. On peut avoir des autres géométries. Alors, on peut penser d'ouvrir la côte du sud de la Méditerranée, etc. Mais ça devient autre chose. C'est pas alors l'Union européenne.
Thomas Ferenczi, de la responsabilité des Anglais dans la panne de l'Europe.
Oui, moi, je serais peut-être plus sévère que Giuseppe. Et je crois qu'en effet, depuis que je suis à Bruxelles, c'est-à-dire depuis un peu plus de 4 ans, je constate dans chaque débat qu'il y a une opposition entre les Anglais et les pays proches d'eux, et puis les fondateurs, enfin les Français, les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois. On l'a vu de manière caricaturale sur la guerre en Irak, mais on le voit sur l'Europe sociale, on le voit sur l'Europe, sur la coopération policière et judiciaire, on le voit sur beaucoup de dossiers. Il est clair que les conceptions des deux divergent. Alors on peut accuser les Français, pour ne parler que d'eux, de vouloir l'Europe en parole beaucoup plus qu'en acte, et finalement de se satisfaire assez bien de cet immobilisme. Mais il n'en reste pas moins qu'en effet, la question britannique doit être tranchée d'une façon ou d'une autre. Les Anglais sont très habiles, puisqu'au fond, ils ont laissé aux Français et aux Néerlandais le soin de rejeter la Constitution, ce qui leur a permis à eux, comme ils avaient prévu un référendum ultérieur, de ne pas se prononcer. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, une des grandes questions qui attendent les réformes institutionnelles, c'est la position britannique. On sait bien que les Britanniques ne veulent pas, ou veulent en tout cas d'un traité extrêmement limité. Donc cette opposition entre les Britanniques d'un côté et, encore une fois, leurs alliés, notamment les pays, les nouveaux États membres, et les autres, me paraît quand même peser très fortement sur l'avenir de l'Europe.
Alors l'avenir de l'Europe, je me tourne vers vous, Tom Weingartner. On pense beaucoup, on compte beaucoup sur Angela Merkel. L'Allemagne préside en ce moment l'Union européenne. Il y aura à la fin de la semaine, dimanche, la déclaration de Berlin, laborieusement rédigée par Angela Merkel. Est-ce que Angela Merkel peut vraiment redonner un élan à cette Europe à l'occasion des 50 ans du traité de Rome? Tous les regards se tourneront vers Berlin dimanche.
Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que ça dépend moins de la déclaration de Berlin, dont on attend, je crois, entre-temps, plus beaucoup. Ce qui est plus important, c'est que les Allemands proposent quelque chose pour relancer le procès constitutionnel à la fin de la présidence, au mois de juin, quoi, après les élections françaises. Ça, c'est beaucoup plus important. Et je pense que là, ils ont encore toutes les chances, au moins, de présenter quelque chose qui peut marcher.
Alors tout de même, déclaration de Berlin, ce sera un premier texte vraiment politique, d'envergure un peu politique, même si ce ne sera pas très très long, il paraît. Hein.
Bon, on ne sait pas encore très bien ce qui va être dedans précisément. Il y a des idées, naturellement, mais ce n'est pas important, finalement.
Mais enfin, ce sera tout de même un texte signé par les 27 pays, dont les nouveaux, les Polonais...
Mais ça, c'est pas sûr. Alors, il paraît que c'est seulement la présidence, la commission et le président du Parlement qui vont finalement signer cette déclaration pour ne pas mouiller trop les autres, quoi. Ça, c'est déjà un signal politique, quoi.
Oui, donc ce sera très important de savoir s'il y a cette signature, cette adhésion ou pas, ou si ce sera simplement un texte, le texte d'Angela Merkel ou le texte des 27. Bien sûr, ce sera très important, il faut attendre un petit peu. Alors, l'idée, il y a 50 ans, des fondateurs, c'était, en tout cas, il y avait cette idée de construire les États-Unis d'Europe. Quand on dit ça aujourd'hui, Ça paraît presque ridicule, Thomas Ferenczi.
C'est effectivement un rêve ou une illusion, comme on veut, qui se sont évanouis. Il n'y a que M. Verhofstadt, le Premier ministre belge, pour plaider encore en faveur des États-Unis d'Europe.
Peut-être Jean-Claude Juncker aussi, le Premier ministre luxembourgeois.
Je ne suis pas sûr qu'il utilise l'expression. En tout cas, M. Verhofstadt a publié un livre sur ce sujet. Non, je crois que c'est Michel Rocard qui avait assez bien dit les choses lorsqu'il avait dit « Mon idéal d'une Europe unie a disparu. » On a une communauté de droits, à la fois droits de l'homme et droits économiques. Enfin, c'est déjà pas mal, mais l'idée de constituer une sorte de super-nation ou de super-État européen, c'est une idée que les Anglais, d'ailleurs, n'ont jamais acceptée et qui, aujourd'hui, dans une Europe à 27, est totalement inenvisageable.
Tom Van Gartner.
Oui, je pense qu'on est naturellement loin de cette idée des États-Unis de l'Europe, et c'est certain, mais il ne faudrait aussi pas oublier qu'on est arrivé à beaucoup. Enfin, on a une union monétaire, on a un marché intérieur qui fonctionne quand même pas mal, on a pas mal de domaines politiques aussi qui fonctionnent, on a Schengen, on a
des frontières abolies, c'est-à-dire une monnaie commune, bien sûr.
On a l'union monétaire, on approche un droit d'immigration communautaire, etc. Alors il y a pas mal de choses qui ont été atteintes. Et
je rajouterais aussi quelque chose qui est très important, enfin qui me paraît très important, c'est le projet Erasmus. Tous ces étudiants qui vont passer une année dans le pays de voisin, c'est effectivement une façon de construire l'Europe.
On a un espace de recherche européenne, je crois que ça aussi c'est très important. Le problème est que les avances sont beaucoup plus pénibles qu'on le croyait et c'est tout simplement quelque chose à une plus grande haleine que on s'imaginait.
Ce que vous dites là, c'est vraiment une heureuse transition pour ce qui va être notre conclusion. Comment se fait-il que cette Europe qui nous a quand même apporté beaucoup de choses, et bien évidemment la paix, que 50 ans de paix, c'est quand même assez extraordinaire sur notre continent. Comment sait-il que cette Europe qui nous a apporté tant de choses fasse si peur aujourd'hui, et notamment parfois aux jeunes Giuseppe Ciarcina?
Oui, non, je voudrais ajouter une chose à cette analyse, c'est-à-dire que dans ces jours, dans ces semaines, dans les derniers mois, on a un peu raté, je pense, l'occasion de se reconnecter avec les opinions publiques européennes. Je suis vraiment étonné de le fait que, par exemple, il y a 1 million de citoyens qui ont déjà signé une demande pour faire un référendum européen. Il n'y a aucun parti politique, aucun personnalité qui dit « D'accord, on va conduire ces combats pour voir, pour exercer une sorte de pression de l'opinion publique, une fois on aurait dit populaire, je ne sais pas si on peut utiliser ces mots, sur ce qui me semble maintenant plutôt un exercice d'architecture institutionnelle qui est un projet vraiment, disons, pleinement démocratique. »
Thomas Ferenczi, vous allez avoir le mot de la fin. Ce décalage entre les opinions publiques et la réalité d'une construction un peu institutionnelle, bureaucratique, enfin perçue comme telle, c'est le grand problème de l'Europe?
Oui, je crois d'abord que dans l'histoire de l'Europe, on s'aperçoit que l'Europe est impopulaire à chaque fois que la situation économique est mauvaise. C'est-à-dire, il y a une relation évidente entre la montée du chômage et la méfiance à l'égard des institutions européennes qui sont rendues, à tort ou à raison, responsables de cette situation. Donc en effet, maintenant, la question est de savoir, on sait bien que l'Europe ne pourra fonctionner que si elle adopte la loi du vote à la majorité. Ça peut paraître un peu technique, mais c'est la seule manière d'avancer. Et franchement, on ne voit pas très bien, à l'heure actuelle, comment les États pourraient se mettre d'accord sur une telle révolution.
Donc c'est foutu?
Ben, je suis assez pessimiste. Je pense qu'on peut modifier à la marge les institutions. On va peut-être, en effet, se mettre d'accord sur la création d'un poste de président ou d'un poste de ministre des Affaires étrangères. C'est quand même peu de choses. La Constitution avait une force symbolique, parce que une Constitution, c'est quand même le signe qu'il y a un peuple. Maintenant, il est clair qu'il y aura un texte qui ne sera pas une Constitution. Donc la valeur symbolique disparaîtra et on va sans doute aller vers des petits ajustements. Ensuite, peut-être, dans les années à venir, un nouveau climat renaîtra qui permettra d'avancer.
Vers de petits arrangements entre amis, c'est vous qui aurez eu le mot de la fin, Thomas Ferenczi. Merci Giuseppe Ciarcina, Corriere della Sera, Tom Weingartner, Essischer Rundfunk, Thomas Ferenczi, Le Monde. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci à Patrice Hardy qui a réalisé cette émission avec les moyens techniques de l'RTBF. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel suivante, carrefour.europe@rfi.fr. Écoutez cette émission sur le site www.rfi.fr, onglet radio. La semaine prochaine, une nouvelle formule de Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles, je vous souhaite une bonne semaine européenne.